affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Il y a quelques mois, la constitution d'un nouveau conseil scientifique de l'éducation nationale a suscité de violents débats. Le point qui faisait litige était l'entrée dans ce conseil de spécialistes des sciences cognitives. Certaines personnalités issues d'autres disciplines affirmaient s'inquiéter que désormais les spécialistes du cerveau et de l'esprit humain, du cerveau et de son fonctionnement, soient chargés de dicter à l'école comment elle doit s'y prendre pour bien enseigner. Cette polémique illustre à n'en pas douter les fantasmes que suscitent les sciences cognitives, que ces fantasmes prennent d'ailleurs la forme d'espoir ou d'inquiétude. Admettons-le d'ailleurs, nous sommes tous traversés ou au moins effleurés par ces fantasmes qui du reste répondent certainement pour une part aux promesses vertigineuses formulées par ces mêmes sciences cognitives. Et aussi parce qu'une science qui se fixe comme objectif de dévoiler les secrets de l'esprit humain et de son fonctionnement ne peut que susciter des sentiments eux-mêmes ambivalents. Face à un tel programme, nous sommes partagés entre notre irrésistible envie de savoir et notre crainte d'être mis à nu. Les sciences cognitives suscitent d'abord des craintes d'ordre anthropologique. Nous redoutons qu'en dévoilant le fonctionnement de notre cerveau, nous perdions notre singularité d'être humain, aussi bien par rapport aux machines qu'aux animaux, et notre singularité d'individu. Ne va-t-on pas découvrir que nos goûts, nos préférences, nos affinités sont le fruit de mécanismes qui nous échappent ? Du coup, nous nourrissons aussi des craintes de nature politique ou sociale. Une fois percés à jour, nous redoutons de devenir manipulables, voire programmables. Nous redoutons que ces nouvelles connaissances nous privent de notre subjectivité, de notre libre arbitre. C'est ainsi, combien même la liberté de nos décisions ne serait qu'une illusion, nous la chérissons. Les sciences cognitives réactivent ainsi la crainte d'un gouvernement des experts altitine aux sentiments démocratiques. Et puis, reconnaissons-le aussi, les fantasmes que nous nourrissons à l'égard des sciences cognitives sont souvent à la mesure de notre ignorance à leur égard. Nous en avons d'autant plus peur que nous ne les connaissons mal et que nous savons toutefois qu'elles sont en plein essor. Nous en avons peur parce qu'elles se situent au cœur d'autres disciplines et pratiques auxquelles nous les associons, pas toujours à tort d'ailleurs. Révolution numérique, neurosciences, robotique, intelligence artificielle. Voilà pourquoi, chers auditeurs, notre émission de ce jour vise à nous lancer dans l'exploration de ce continent scientifique nouveau ayant le cerveau et l'esprit humain comme objet d'étude. Nous allons tenter de le circonscrire, nous allons le parcourir de long en large pour en établir en quelque sorte la cartographie. Par chance, c'est justement l'objet d'un ouvrage récemment publié aux éditions Gallimard dans la collection Folio Essai, sous la direction de Daniel Andler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est parmi nous. J'ai dit co-direction car il l'a dirigé en compagnie de Thérèse Collins et de Catherine Talon-Baudry. En sa compagnie, nous allons donc pouvoir explorer ce continent et je le remercie d'avoir rejoint notre studio. Monsieur, merci beaucoup. Je dois préciser que vous étiez en quelque sorte presque dédié à l'exploration des sciences cognitives, car vous avez, dans une première partie de carrière, enseigné les mathématiques, et nous verrons qu'il y a beaucoup de liens avec les mathématiques, mais qu'ensuite vous êtes davantage consacré à la philosophie, et particulièrement à la philosophie des sciences, et qu'enfin, vous avez fondé à l'École normale supérieure le département d'études cognitives. Encore une fois, merci d'être avec nous, car sans vous, nous n'aurions pu répondre à aucune de ces questions. La première que nous voulons vous poser, c'est la genèse de l'ouvrage. Commençons souvent nos émissions comme cela. Qu'est-ce qui vous a poussé à diriger un ouvrage d'une telle importance? Je précise qu'il fait plus de 700 pages, parfaitement lisible, même par les béotiens.
Écoutez, d'abord, merci de m'accueillir ici. Les sciences cognitives, donc, sont à la fois très ancienne, puisqu'en un certain sens, les grands philosophes grecs posaient déjà un certain nombre de questions qui sont bel et bien au centre des sciences cognitives aujourd'hui. Et en un autre sens, elles sont récentes, elles ont, selon la manière de compter, de remonter plus ou moins loin dans leurs antécédents, elles ont 70, 80 ans, ou seulement 45, mais enfin bon, mettons plus d'un demi-siècle et moins d'un siècle. Alors, en France, cette discipline s'est constituée un petit peu plus tardivement que dans d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis, alors que nous étions au contraire plutôt en avance, dans la mesure où, selon le grand psychologue David Premack, au fond, l'idée même des sciences cognitives est née du génie de Monod, quand il a organisé à Royaumont un célèbre colloque où se rencontraient justement la plupart des disciplines qui sont constituantes des sciences cognitives. Et sur les photos de ce colloque, on voit avec attendrissement des grands anciens qui étaient jeunes à l'époque, qui vont de Jerry Fodor à Piaget, à Chomsky, à Dan Sperber, Scott Atrand et bien d'autres. Bref. Les sciences cognitives ont commencé à s'organiser à la toute fin des années 80. Et ceci notamment grâce à l'activité d'un petit groupe, au centre desquels était un neuroscientifique également philosophe, Michel Imbert, qui était à la fois professeur de neurosciences à Paris 6 et directeur d'études à l'EHESS, et qui, à ce titre-là, pouvait en quelque sorte fédérer un grand nombre de disciplines et d'écoles de pensée qui avaient plutôt tendance à se regarder en chien de faïence. Alors, l'idée initiale de Michel Imbert et de ses amis, dont j'étais, c'était déjà d'organiser un DEA. À l'époque, DEA, diplôme d'études approfondies, auquel a succédé, donc, au début des années 2000, un master. Donc, on crée un DEA de sciences cognitives qui est suivi d'un master de sciences cognitives que j'ai également, disons, co-fondé et co-dirigé avec Emmanuel Dupoux. Et cette formation de ce qu'on appelait le troisième cycle s'est perfectionnée au fil des années, a constitué une sorte de, à la fois de milieu scientifique, d'approche pédagogique. Et ce que nous avons voulu faire en mettant ensemble ce volume, c'était au fond de tirer de cette expérience, au niveau aussi bien de la méthode que des contenus, au fond, le meilleur. Donc il s'agit en fait d'un livre qui est inspiré par ce master de sciences cognitives qu'on appelle parfois le Cogmaster chez nous, j'aime pas beaucoup l'expression, mais c'est donc un peu le meilleur du Cogmaster qui est en quelque sorte condensé dans cet ouvrage.
Peut-être qu'il faudrait définir pour nos éditeurs ce que sont les sciences cognitives. D'ailleurs, le pluriel interpelle. On parle de sciences au singulier la plupart du temps, en parlant d'une discipline. Et là, il y a un pluriel qui s'impose et qui veut peut-être dire quelque chose.
C'est vrai. Alors, en anglais, par exemple, on utilise le singulier, mais parce que science, en anglais, a un sens collectif, n'est-ce pas on dit la science, parfois, en français, mais on préfère dire les sciences. On parle de l'académie des sciences et pas l'académie de la science. Alors, en ce sens, la différence n'est peut-être pas si importante que cela, mais il est absolument essentiel, dans le cas des sciences cognitives, de bien souligner leur caractère pluriel. Il s'agit d'une fédération de disciplines qui sont très loin d'être fusionnées en un unique projet. En ce sens, on peut dire que les sciences cognitives ressemblent un peu aux sciences sociales. Il n'y a pas une science sociale, il y a des sciences sociales, à la fois parce que les niveaux d'approche, les niveaux de réalité vont de l'individuel au collectif et ainsi de suite. Mais aussi parce que dans le cas des sciences cognitives, il y a, disons, des sources assez différentes qui sont d'une part une contribution des sciences humaines, d'autre part une contribution des sciences essentiellement biologiques, et puis troisièmement une contribution des sciences formelles, mathématiques, informatiques, logiques et ainsi de suite. Donc on a au sein des sciences cognitives au moins trois cultures, si ce n'est quatre, je mets souvent la médecine comme quatrième dimension importante des sciences cognitives, et il va sans dire que ces différentes cultures contribuent chacune sans perdre en quelque sorte leur personnalité propre. Donc je dirais que les sciences cognitives c'est une fédération de disciplines qui sont néanmoins qui se rapprochent, d'abord parce qu'elles veulent se rapprocher, parce qu'elles estiment que leur objet, elles ne peuvent pas les traiter chacune séparément, elles ont besoin de l'appui des autres, et puis parce que elles ont, disons, une capacité de, disons, de modifier en profondeur, de révolutionner, si vous voulez, les approches traditionnelles de l'homme et de la société.
Mais c'est-à-dire que l'acte de naissance, quelle que soit la date précise, comme vous le disiez, tantôt 80, 50 ans, c'est plutôt l'acte de naissance d'une coagulation que d'une réelle création ex nihilo. C'est pas une nouvelle discipline en soi, c'est la... Tout d'un coup, ça s'est coagulé, mais pourquoi ?
Alors, il y a deux raisons. D'une part, effectivement, la coagulation a eu lieu à la faveur de rencontres qui se sont faites au milieu des années 50, essentiellement, pour être un tout petit peu plus précis, de gens qui se sont rendus compte que, en mettant bout à bout, plus exactement en instituant une sorte de synergie, c'était un mouvement extrêmement volontariste, un certain nombre de nouveaux paradigmes issus de différentes disciplines, par exemple l'informatique, par exemple la linguistique, par exemple la psychologie du développement, on parviendrait à, en quelque sorte, on créerait un outil conceptuel nouveau. Alors, parmi les outils conceptuels, donc si vous voulez, il y a coagulation, mais cette coagulation suit immédiatement la création, qui est elle, essentiellement ex nihilo, de nouveaux outils. Et ces outils sont, disons, dans une grande mesure, la théorie de l'information et la théorie de la computation. Donc en ce sens, les sciences cognitives sont bel et bien nées, Dieu sait qu'on leur... On fait le reproche, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce reproche. On leur fait le reproche d'avoir pour modèle l'ordinateur et de dire, ben voilà, nous, on arrive et on va faire de l'esprit humain, on va vous montrer que l'esprit humain, c'est une manière d'ordinateur, le cerveau est un ordinateur, l'esprit humain et les productions de cet ordinateur. Or, tous les biologistes savent qu'il n'en est absolument rien. Un ordinateur, un cerveau, ça ne marche pas du tout comme un ordinateur, et ainsi de suite. Néanmoins, il est absolument vrai que, si vous voulez, le paradigme informationnel et calculatoire, c'est ça un petit peu la percée qui a permis ensuite aux sciences cognitives de s'agréger et du coup de rassembler autour d'elles des programmes de recherche qui existaient depuis très longtemps, évidemment, en psychologie, en psychophysique, dans les neurosciences, qui ne s'appelaient pas neurosciences à l'époque, c'était différentes disciplines ayant rapport au service, au système nerveux, la logique qui est vieille comme Aristote et ainsi de suite.
Oui, d'ailleurs, peut-être est-ce ainsi qu'il faut procéder. Quel est l'objet ? Finalement, elle se définit davantage par son objet que par ses outils, cette science.
Tout à fait, exactement. L'objet, c'est donc... cet objet est double, et cette duplicité ou cette dualité est absolument au cœur du projet. Elle veut rendre compte, donc, en gros, du fonctionnement et des productions de l'esprit humain, mais elle veut en rendre compte à deux niveaux, et l'idée qu'il faut et qu'on peut et qu'il faut en rendre compte à deux niveaux est absolument cruciale. Si vous rejetez cette idée, vous n'êtes plus dans les sciences cognitives, vous jouez un autre jeu, ce qui est votre droit le plus strict. Mais nous, le jeu que nous jouons consiste à dire que nous voulons une caractérisation des productions de l'esprit humain, de ses fonctionnalités, mise en rapport avec les propriétés du substrat matériel, de l'organe qui produit le mental, qui produit l'esprit, donc le cerveau. Mais nous pouvons considérer le cerveau à différents niveaux d'abstraction. Nous avons des modèles du cerveau et nous, à partir de ces modèles du cerveau, nous montrons comment ces modèles peuvent éventuellement, le cas échéant, produire un certain nombre de choses comme le langage, les mœurs, les normes, la perception des couleurs et ainsi de suite. Donc notre idée, c'est que nous cherchons à rendre compte à la fois du cerveau ou de différents modèles de production matérielle ou naturelle de la pensée, d'une part, et la pensée ou l'esprit ou la cognition encore, si vous voulez, de l'autre.
Si je ne me trompe pas, ça signifie que c'est presque par essence une science totalement antidualiste.
C'est une science...
Une science qui réconcilie.
C'est une science qui réconcilie sans réduire. Ça, c'est toujours un petit peu parfois difficile à défendre. Et certains de mes collègues à différents moments, soit qu'ils le pensaient profondément ou le pensent encore, soit qu'ils estimaient nécessaire dans un premier temps de simplifier leurs propos, présentent les sciences cognitives comme les sciences du cerveau. Et donc, tout à coup, il n'y a plus qu'une chose, en quelque sorte, et pas deux. Donc, l'idée, c'est de garder une dualité dans la méthode et une unicité dans le substrat. C'est-à-dire, nous rejetons, comme la plupart d'ailleurs des gens aujourd'hui, en tout cas, en dehors des questions de foi et de croyance, qui sont très intéressantes, mais qu'on peut laisser en réalité de côté, je crois que la plupart des gens aujourd'hui, qu'ils soient scientifiques ou non scientifiques, ont une sorte d'intuition fondamentale de l'unicité, c'est-à-dire il ne croit plus, je crois, que le corps est habité par une âme qui serait en quelque sorte parachutée d'on ne sait où et qui serait d'une nature complètement différente. Les gens sont de plus en plus persuadés, je crois notamment parce que les preuves s'accumulent, qu'il y a une étroite corrélation, disons, entre le cerveau et la production du cerveau qui est la pensée. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de réduire l'une à l'autre, et c'est ma conviction profonde, et je pense que celle de la plupart de mes collègues, qu'on ne peut pas étudier en quelque sorte le cerveau sans étudier en parallèle en quelque sorte la pensée, et mettre une sorte de... Mettons que méthodologiquement, on va parler d'une correspondance. Il y a une description au niveau de la pensée, il y a une description au niveau du cerveau. Sachant que dans certains domaines, on en sait beaucoup plus sur, disons, le flux mental, ce qui se passe au niveau de la pensée. On n'a guère d'idée de comment le cerveau y arrive d'une manière ou d'une autre. On ne sait même pas si on n'y arrivera jamais. Sur d'autres points, au contraire, on a des renseignements extrêmement précis sur la manière dont le cerveau produit ce qu'il produit. Et on cherche, en tâtonnant un petit peu, son correspondant, le correspondant de ces productions neuronales, en quelque sorte, au niveau, disons, de l'esprit ou de la psychologie.
Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est une science qui n'est pas péremptoire. C'est-à-dire que... On entend, on cherche, on explore, on essaye de découvrir. On sent que c'est de la science en train de se faire quand même, non ?
Ah, c'est tout à fait. C'est une science extrêmement jeune. C'est une science qui, à beaucoup d'égards, se cherche. Il faut distinguer en quelque sorte de niveaux. L'un, c'est celui du cadre général. Il est incontestable qu'on tâtonne beaucoup. Quel est le cadre général de cette nouvelle discipline, nouvelle approche, etc. Et là-dessus, d'ailleurs, nous sommes en joyeux désaccord les uns et les autres. Il y a toutes sortes de paradigmes au sein des sciences cognitives. Il y a une sorte de paradigme classique qui leur a permis en quelque sorte de s'installer dans le paysage et de commencer à travailler. Et puis il y a toutes sortes de paradigmes nouveaux, rebelles, révolutionnaires, hétérodoxes, etc. Donc il y a ce niveau-là où effectivement on se cherche beaucoup, on tâtonne beaucoup, et c'est une très bonne chose, ça intéresse beaucoup le philosophe que je suis. Et puis il y a un autre niveau qui est celui, disons, des études plus locales. Et là, on étudie des choses beaucoup plus précises, on se demande pourquoi parfois certaines personnes perdent la parole, et pourquoi ils la retrouvent, pourquoi ils sont capables d'identifier une certaine catégorie d'objets et pas une autre catégorie d'objets. Pour toi, certains enfants ne développent pas, mettons, des relations sociales comme la plupart des autres enfants. Et là, tout à coup, on sort, disons, du flou, du controversé, etc. Bien entendu, comme dans toute science, il y a des désaccords, heureusement, toute science est parsemée de désaccords, mais il y a fondamentalement un progrès de recherche qui est essentiellement progressiste, progressif. Les résultats s'accumulent, ils permettent des applications, des prédictions, donc on est là tout à fait au niveau d'une science normale. Donc il faut bien distinguer le cadre général, qui est un peu flou, mais regardez, il en est peut-être de même aussi de la physique quantique, dont le cadre général continue...
Est devenu flou.
Et puis, les études beaucoup plus concrètes sur un certain nombre de fonctions motrices, perceptrices et mentales.
Oui, il y a une dimension, hein, mais c'est parfois un procès qu'on lui fait, mais c'est aussi une façon pour les scientifiques qui s'occupent de cognition, de se défendre, mais il y a une relation assez utilitaire. C'est-à-dire qu'on sent que les recherches sont assez souvent quand même appliquées, ont des objectifs et qui sont d'ailleurs fortement médiatisables pour le meilleur comme pour le pire.
Alors ça, c'est intéressant parce que vu de l'extérieur, effectivement, c'est ça qui frappe. On pense que, oui, en mécanisant les outils d'aide à la décision développés par l'intelligence artificielle et les approches de type nudge pour pousser les gens dans la bonne direction sans trop les forcer, etc. Donc, toutes ces applications auxquelles, d'ailleurs, on a consacré un grand chapitre dans le livre, pour insister justement sur le fait que les sciences cognitives, c'est pas simplement une science de laboratoire, ça s'applique. Mais d'un autre côté, du point de vue des sciences cognitives, et surtout le point de vue qui est le nôtre, disons, dans notre milieu de recherche, qui est ce qu'il est, et dans ce master de sciences cognitives, au contraire, nous sommes très sciences pures. Et nous nous demandons nous-mêmes parfois à quoi, de quelle manière nous allons réellement pouvoir appliquer nos sciences cognitives. Nous sommes très prudents sur ce point. Je vous donne un exemple, puisque vous citiez dans votre introduction le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Pendant très longtemps, la plupart d'entre nous, nous sommes volontairement abstenus d'intervenir dans le champ de l'éducation, de la didactique, de la pédagogie. Nous avons dit les sciences cognitives telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas suffisamment solides et suffisamment leur grain d'étude n'est pas suffisamment fin pour pouvoir être éventuellement pertinente pour les questions d'éducation. Alors nous sommes un peu sortis de cette prudence. Maintenant nous estimons que les sciences cognitives ont quelque chose à apporter, mais bien entendu nous ne prétendons pas, ni moi ni je pense mes collègues du conseil en question, que les sciences cognitives sont l'unique en quelque sorte clé d'explication et pour la politique, ne sont pas les seuls à pouvoir dicter une politique en matière d'éducation. Donc j'ajouterais, même si ma réponse est un peu longue, excusez-moi, j'ajouterais que beaucoup des applications des sciences cognitives ne sont pas d'une qualité extraordinaire. C'est pas la faute des sciences cognitives, c'est la faute des gens qui s'emparent sans trop bien les comprendre d'un certain nombre de résultats qui sont fragiles ou qu'il faut réinterpréter dans le contexte, qui ne font pas. Ils le mettent en quelque sorte, si je puis dire, à leur sauce et disent, voyez, les sciences cognitives vont vous permettre de gagner $1 million en lançant une start-up ou de modifier totalement le comportement des conducteurs ou des choses comme ça. C'est tout simplement pas le cas. Les sciences cognitives peuvent donner des indications. Comme me dit ma collègue et mon amie chère Elena Pasquinelli, avec laquelle j'ai co-rédigé le chapitre sur les applications, les sciences cognitives servent de boussole. Elles ne sont pas un GPS, c'est une boussole. Elle vous dit, voilà, c'est un peu comment les choses s'organisent. Regardez donc peut-être de ce côté-ci ou de ce côté-là. N'allez pas trop dans cette direction-là. Vos chances ne sont pas très bonnes, mais en aucune manière, elles ne sont suffisamment, disons, elles n'ont les ressources nécessaires pour véritablement dicter une politique, que ce soit en matière de décision économique, d'éducation, de médecine ou quoi que ce soit de ce genre.
Mais ça, c'est une sorte de bilan d'étape.
Oui.
Quand vous dites ça, vous dites aujourd'hui.
Oui.
Et demain.
Alors, et demain. Demain. Donc là, disons qu'il y a deux choses. Certainement, les sciences cognitives c'est un programme de recherche, contrairement à ce que disent certains de ses détracteurs, un programme de recherche scientifique progressif qui se développe et qui va continuer effectivement de nous apprendre un certain nombre de choses. Mais cela étant dit, premièrement, plus nous apprenons, plus nous mesurons la difficulté de certains problèmes. Vous avez mentionné la menace que ferait peser éventuellement les découvertes des sciences cognitives sur la question du libre arbitre. Alors d'abord, la question du libre arbitre, elle est débattue par les philosophes depuis très longtemps. Kant lui-même pensait qu'au niveau phénoménal, au niveau empirique, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose qui se passe à un autre niveau. Donc les sciences cognitives...
Oui, les déterminismes existaient avant les sciences cognitives.
Exactement. La question du déterminisme existait avant les sciences cognitives et il est tout à fait évident que les sciences cognitives, là il est vrai que les neurosciences occupent une place tout à fait privilégiée, je le dis En passant, les sciences cognitives ne se réduisent pas aux neurosciences.
C'est le point très important. C'est peut-être le point clé à développer. On peut peut-être passer un petit moment là-dessus.
D'accord.
Parce qu'il y a une association qui est faite.
Absolument.
Et qui fait peur, parce que du coup, il y a un côté mécaniciste, automatique.
Voilà, exactement. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles les neurosciences les sciences cognitives ne se résument pas aux neurosciences. Ou alors, après tout, chacun est libre de redéfinir les termes. Si on veut appeler ce que moi j'appelle, avec beaucoup de mes collègues, sciences cognitives, si on veut les appeler neurosciences, moi je veux bien, mais à ce moment-là, qu'on ne dise pas que c'est une science du cerveau. De la même manière qu'on ne pourrait pas, disons, développer une science informatique en étudiant les ordinateurs. Imaginez donc une tribu de génies scientifiques martiens qui débarquent sur Terre et qui découvrent un ordinateur. Et qui disent, bon, mais à quoi ça sert? Mais on va le démonter, on va bien comprendre à quoi ça sert. Ben, ça marche pour les machines simples, et encore, disons, si vous tombez sur, je ne sais pas, une roue dentée, vous pouvez essayer de vous imaginer à quoi ça peut servir. Si vous tombez sur un ordinateur et vous le démontez pièce à pièce, vous n'allez rien trouver. Hein, donc, en ce sens-là, déjà, les neurosciences, pour comprendre le cerveau, les mécanismes du cerveau, il faut déjà comprendre ce que les cerveaux fabrique en quelque sorte, ce pourquoi il a été conçu, mettons, ou il a évolué au cours de l'évolution biologique par sélection naturelle. Donc, dans un premier temps, déjà, les sciences cognitives ne sont pas une science du cerveau si par cela on entend la science des mécanismes cérébraux. Nous avons besoin de savoir à quoi servent ces mécanismes et comment ils évoluent avec le temps, compte tenu de la plasticité cérébrale, de l'influence de l'environnement, etc. Toutes choses qui ne se passent pas véritablement dans le cerveau, mais à l'interface du cerveau et de l'environnement, notamment l'environnement culturel, et ainsi de suite. La deuxième raison, c'est que il y a toutes sortes de choses passionnantes à propos des êtres humains et des sociétés, et même des sociétés animales, qui ne sont pas vraiment étudiables par le biais du cerveau. Et qui nous intéresse peut-être plus qu'un certain nombre de mécanismes intimes. Alors, la question du déterminisme, et quand même pour y revenir, supposons qu'on ait un jour une théorie, disons, plus achevée que celle dont on dispose à présent du cerveau. Donc, on apprendrait au fond des choses. Par exemple, peut-être qu'un jour on comprendrait pourquoi certaines nuits on a des cauchemars, et quelle est la fonction des cauchemars. Moi, je trouve que ça ne n'ôte rien, en quelque sorte, au mystère qu'est le cauchemar, à l'effet que nous fait un cauchemar, de savoir qu'il a été, en quelque sorte, généré par notre cerveau. Au fond, on n'en doute pas vraiment. Et quand on pense à ces questions de décision, bon, vous êtes en train de réfléchir à la prochaine question que vous allez me poser, et pour ça, vous faites un effort qui est conscient. Mais ce qui est à l'arrière, en quelque sorte, dans les coulisses de cet effort conscient, ben c'est des neurones qui crépitent dans tous les sens et vous n'avez pas la moindre idée des raisons pour lesquelles ils crépitent de telle manière plutôt que de telle autre. Le neuroscientifique va peut-être vous donner une description plus fine de ce qui se passe à ce moment-là, mais en quelque sorte, ça n'éliminera pas, ça ne fera pas disparaître, pas comme par miracle, votre travail conscient de réflexion à la prochaine question que vous allez me poser.
Oui, on pourrait même dire que l'extension par la compréhension du domaine du conscient pourrait renforcer le libre arbitre et la maîtrise du fonctionnement.
Tout à fait, absolument. Dans les sciences cognitives, il y a un courant qui n'est pas une école, si vous voulez, mais un thème qui revient assez fréquemment, justement en réponse, si vous voulez, à ces accusations de réductionnisme ou de déterminisme, de dire que mieux nous comprenons un certain type de mécanisme, plus nous sommes en mesure, effectivement, d'aider les gens à consciemment prendre les mesures qui serait favorable, disons, à une amélioration de leur existence. Comment par exemple, si les neurosciences nous disaient, nous fournissaient des renseignements sur les addictions, ce qui est le cas aujourd'hui, qu'elles commencent à nous fournir des renseignements très intéressants sur les addictions, ça nous permettra éventuellement, si nous le choisissons, dominer nos propres addictions, ce qui serait au fond peut-être plus malin que de nous donner des médicaments pour nous empêcher de boire ou de fumer.
Dans ce que vous avez dit, il y a en quelque sorte deux niveaux. Hein. C'est-à-dire qu'on retombe sur ce que les Américains appellent le nudge, c'est-à-dire une capacité à influencer qui frôle quand même la manipulation sur le thème « je vais faire le bien des gens en les incitant de façon indolore, mais donc aussi souvent non décelée à prendre les bonnes décisions. » Et il y a la capacité à élargir son libre arbitre. Est-ce que ce n'est pas le décalage finalement de compréhension de tout ça qui crée aussi... ce petit parfum de scandale, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça reste une science de spécialistes, que lorsqu'elle est vulgarisée, c'est par des gens qui sont plutôt des journalistes et qui simplifient à l'outrance comme moi aujourd'hui, ou par des gens qui sont du domaine qui agissent dans la fiction. Est-ce que finalement la solution pour dédramatiser, c'est pas de répandre ces connaissances le plus possible?
Alors ça, c'est tout à fait vrai. J'espère que peut-être ce livre pour le public francophone contribuera un petit peu à éclairer effectivement la lanterne du public. Mais ça, ce sont des questions assez difficiles en réalité, qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent un petit peu d'un mouvement très collectif. Je vais remarquer en passant que le nudge, par exemple, n'est pas directement issu des sciences cognitives. Enfin, un petit peu, oui. C'est vrai que les travaux de Kahneman et Tversky sur les biais de raisonnement, ils nous ont montré en quelque sorte assez concrètement, sans du tout recourir au cerveau d'ailleurs, il n'y avait absolument pas de cerveau au moment de ces recherches-là dans le paysage, nous ont effectivement montré que nous sommes victimes, comme ils disent, d'illusions cognitives. Nous voyons un certain nombre de patterns et nous ne voyons pas les patterns qu'il faudrait voir. Alors, un peu lointainement, tout ça, ça a donné lieu effectivement à cette technologie en quelque sorte de l'aide à la décision qui sont les nudges, qui ne sont même pas directement, enfin pas très intimement liés aux sciences cognitives.
C'est plutôt la dynamique de groupe ou de la psychologie sociale ou
c'est... Oui, d'ailleurs, l'origine de toutes ces recherches, c'est la psychologie sociale des années 50, absolument. C'est vraiment de la psychologie sociale, fondamentalement. Alors, je pense que finalement, il faut replacer les sciences cognitives dans le contexte d'une entreprise extrêmement large. Après tout, quand vous pensez aux productions humaines, toutes les sciences qu'on appelait autrefois les sciences de l'esprit ou les sciences morales, justement, c'est très très large. Ça recouvre énormément de choses. Ça recouvre toutes les dimensions, disons, anthropologiques et culturelles. Ça recouvre toutes les dimensions de l'action, de la décision individuelle, l'éducation, le développement des enfants, pourquoi les tout-petits-enfants apprennent si vite ce qu'ils apprennent, à bouger, à reconnaître la voix de leurs parents, à parler, ainsi de suite. Il s'agit donc d'un domaine extraordinairement vaste. Et c'est pour ça que les sciences cognitives ne sont pas du tout destinées à s'unifier ou à devenir une unique science, en quelque sorte. Ou ça, effectivement, il y a une sorte de fantasme qu'un jour, on aura une sorte de bibliothèque des algorithmes, n'est-ce pas, du cerveau. Et une fois qu'on aura cette bibliothèque, premièrement, on arrivera à comprendre tout ce que nous faisons en tant qu'êtres humains, en tant que pères, citoyens, conducteurs d'automobiles, etc. Et que, en plus, on pourra nous piloter, nous obliger à nous comporter d'une manière ou d'une autre. C'est évidemment un fantasme complètement qui n'a pas l'ombre du commencement d'une chance de se réaliser.
Vous nous rassurez parce que de fait, ça ressemble totalement à un cauchemar. Donc je comprends que ça s'anime devant nos yeux comme une perspective absolument terrifiante. Absolument. Ça se rapproche un peu des débats, vous savez, autour de la transparence. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvent la transparence formidable et puis d'autres qui disent en fait, le clair-obscur, c'est pas mal.
Absolument.
Et dans le cerveau, absolument, ou dans nos pensées, peut-être aussi, quand même.
Tout à fait.
Mais donc, vous nous dites qu'il va être maintenu, quoi qu'il arrive.
Absolument. Et j'ajouterais, si je puis, que en tout état de cause, même si nous arrivions à développer une science nettement plus complète que celle dont nous disposons aujourd'hui, ce serait une science, disons, des comportements généraux, des comportements génériques. Nous comprendrons un jour peut-être beaucoup mieux comment un enfant placé dans une certaine situation apprend le javanais qu'on parle autour de lui, ou bien le portugais, ou bien le français. Nous avons d'ailleurs fait un certain nombre de progrès dans cette direction, donc le fantasme n'est pas complètement irréaliste. Ça ne nous dira pas comment vous, il y a un certain nombre d'années, vous avez appris le français ou le javanais. Et évidemment, a fortiori, lorsque peu à peu, les influences de l'environnement, vos expériences personnelles, votre absorption de la culture, etc., toutes choses qui ne sont pas mystérieuses, n'appartiennent pas à un ciel des pensées pures, tout ça, c'est aussi, ça a des bases évidemment naturelles, mais n'empêche que, aucune science cognitive, si développée qu'elle soit, ne pourra, ne cherchera à rendre compte de votre vie intérieure, de vos choix de citoyen, de pair, de professionnel, etc.
Donc je pourrais continuer à avoir des comportements complètement absurdes, même dans cet avenir lointain.
Tout à fait, moi tout autant.
C'est peut-être un autre point à souligner, ce qui m'a frappé à la lecture du livre, c'est que lorsqu'on parle des sciences de la cognition, on a un peu l'impression qu'on va rentrer dans la machinerie humaine et comprendre comment elle fonctionne, alors qu'à bien des égards, c'est autant ou presque davantage... Vous penchez presque autant sur les interactions avec l'environnement, avec la société, avec les semblables, avec nos prochains, et que donc évidemment ça démultiplie l'horizon des possibles.
Tout à fait.
Il ne s'agit plus d'observer quelque chose qui fonctionnerait sur soi-même.
Exactement, vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est vraiment, disons, on peut parler à cet égard d'un tournant. Il y a vraiment un tournant, disons, environnemental et social et écologique des sciences cognitives qui, dans un premier temps, et c'est tout à fait légitimes, se sont focalisés sur des phénomènes qui sont relativement localisables. Vous prenez la perception normale, la perception quand elle se développe, les problèmes de perception, si simplement vous ne percevez pas les couleurs, ou vous ne percevez pas le mouvement, vous ne reconnaissez pas, comme Oliver Sacks, le patient d'Oliver Sacks, le visage de votre épouse, tout ça, c'est quelque chose qui est, disons, relativement contenu dans la boîte crânienne, et dont d'ailleurs, nous ne sommes pas particulièrement choqués de penser qu'il y a une machinerie, n'est-ce pas, du système visuel, qui, quand elle fonctionne bien, nous donne l'image visuelle que nous connaissons, et quand elle marche moins bien, et bien justement, ne nous la donne pas, et on cherche à comprendre pourquoi, et si on pourrait éventuellement remédier à ces défauts. Et puis, à mesure, disons, qu'on progressait dans ces domaines-là et qu'on a commencé, de nouvelles générations de chercheurs ont commencé à se poser un autre type de questions, on s'est rendu compte à quel point la cognition était un phénomène très largement écologique, environnemental et social. Ce qui peut s'entendre de deux manières. Premièrement, après tout, ces capacités d'interaction sociale, d'identification, de dialogue, de reconnaissance d'autrui, d'attribution à autrui, d'un certain nombre de pensées qui ne sont pas nécessairement les miennes, ma capacité de prédire votre comportement sur ce que j'imagine être à la fois vos désirs et vos croyances. Tout ça, déjà, nous fait sortir, en quelque sorte, d'un commerce strictement solipsiste. C'est plus une boîte. C'est déjà une boîte qui entre en relation avec une autre boîte. Donc il y a toute cette dimension-là, des bases cognitives de la cognition sociale, ce qui nous permet d'être en relation avec autrui. Et puis il y a un autre niveau qui est celui de la société elle-même, c'est-à-dire de notre perception et de notre compréhension de la société en tant que telle. Et donc c'est là que les sciences cognitives entrent en rapport étroit avec les sciences sociales, et de même que, au fond, mettons, les neurosciences ou l'informatique à elles seules ne peuvent pas développer toute seule le programme des sciences cognitives, de même, les sciences cognitives ne peuvent pas à elles seules développer tout le programme des sciences de l'homme et de la société dans leur dimension culturelle, anthropologique, etc. Elles doivent évidemment s'allier aux disciplines, aux sciences humaines et sociales traditionnelles qui ont développé leurs propres méthodologies, leurs propres outils, leurs propres corpus de connaissances. Et donc mon espoir à moi, c'est que dans les 20 ou 30 ans, l'opposition qui continue malheureusement de s'exprimer trop souvent entre sciences de l'homme et de la société et puis sciences cognitives, j'espère qu'on finira de part et d'autre par comprendre que cette opposition n'a pas lieu d'être.
Au sein de l'Institut, ce n'est pas possible, puisqu'il s'agit de rassembler en un faisceau les différentes disciplines de la connaissance. Au-delà de la boutade, d'ailleurs, il faut peut-être préciser d'ailleurs qu'il n'y a pas d'ambition hégémonique ou même de digestion ou de rassemblement de l'ensemble des disciplines, car vous précisez à plusieurs moments qu'il faut que chacune d'entre elles continue à vivre de sa vie propre. Et donc, voilà, il n'y a pas de volonté de tout rassembler, une espèce de discipline unique et démiurgique.
C'est ça, tout à fait. Vous avez raison de le souligner. Il faut reconnaître que dans les années 50, alors que, disons, les connaissances étaient beaucoup, beaucoup moins étendues, il s'agissait de vision, il y avait une sorte de vision d'un cœur, en quelque sorte, d'une nouvelle discipline qui, d'une certaine façon, irradierait et finirait par, effectivement, comme vous le dites, assez bien absorber l'essentiel des investigations scientifiques sur l'humain. Ce rêve-là s'est complètement dissipé. En réalité, on s'aperçoit que plus les connaissances augmentent, plus, disons, des disciplines et des sous-disciplines et des sous-sous-sous-disciplines se forment, avec tout le problème de les mettre en relation les unes avec les autres. Tout ça vient du fait que les sciences, c'est plus... Le rapport entre les sciences et leur objet, ces rapports-là sont plus complexes qu'on imagine. Regardons par exemple la biologie ou les sciences physiques. Il n'y a pas une science du vivant. Il y a des sciences biologiques qui, parfois, ont du mal à se parler les unes avec les autres. Et quand il s'agit de mettre ensemble la biologie et la chimie, la biologie et l'anthropologie, la biologie et Dieu seul sait quoi, on s'aperçoit que ce n'est pas évident. Donc, les sciences construisent des modèles de plus en plus raffinés. Et il y a ensuite la question de l'articulation de ces modèles. Et cette articulation ne livre pas, en quelque sorte, un portrait complet de la réalité. Ça, c'est une vue de l'esprit.
Dans les années 50, il y avait une sorte de messianisme de la science quand même, on en espérait énormément. C'est aujourd'hui, vrai. L'ambiance a totalement changé, non ?
Oui, alors ça va même un petit peu trop loin dans ce sens. Nous vivons effectivement une période, disons, de désenchantement. D'abord, l'impression est souvent que la science conduit à des conséquences regrettables et pas simplement des conséquences souhaitables. Et il y a aussi l'idée que la science se trompe souvent, on prend conscience du fait que la science est faillible, qu'elle se trompe, qu'elle donne même lieu à un certain nombre de tricheries. Et donc, ça tend à discréditer la science d'une manière qui n'est pas toujours, je dois dire, positive. Voyons ce qui se passe dans certains grands pays frères, où le discours anti-scientifique, le mépris complet des données scientifiques, est une cause, enfin, quelque chose d'assez épouvantable, d'assez triste, d'assez effrayant. Et donc, ce discrédit relatif de la science n'est pas non plus une bonne chose. Mais inversement, bien sûr, il y avait une espèce de rêve, en quelque sorte, qui était au fond aussi mal fondé que le cauchemar actuel, en quelque sorte.
Mais les deux vont peut-être de pair ou sont à contre-coup. Donc, on ne sait pas que c'est à mesure, le discrédit est à la mesure de l'orgueil qui avait été présenté, que finalement, la meilleure réponse... Je trouve qu'en filigrane de votre livre, souvent le livre, vous mettez en avant la modestie, la vertu de modestie, et que la marche triomphale de la science, finalement, vous le dites à plusieurs reprises, ce sont des affirmations, des thèses précédentes, des tâtonnements, et que si la science se présente comme cela, il est probable qu'elle ne catalysera plus autant l'animosité qu'aujourd'hui, parce que si on se présente comme un système parfait, on a envie de présenter un autre système parfait.
Bien sûr, bien sûr.
Alors que sinon, on retrouve... L'épopée de la cognition humaine, peut-être, avec ses pages glorieuses et puis ses échecs, ses bons et ses mauvais moments.
Tout à fait.
Comment conclure pour rassurer définitivement nos auditeurs sur la nécessité de se plonger dans ces questions, peut-être aussi en rappelant que finalement, derrière la cognition, au fond, il y a des aspirations qui tiennent l'homme depuis le début. On en fait toute une affaire, mais sont de nouveaux outils sur quelque chose qui est peut-être né en même temps que l'être humain. C'est ce qui nous caractérise, peut-être, la cognition. Tiens, en fait, est-ce que ça nous caractérise? Parce que ça, c'est une autre des angoisses actuelles. On voit plus très bien. Enfin, une sorte de continuum entre l'homme et la machine, ça, c'est dû à voilà, la théorie de l'information. On se dit finalement, la machine puis l'homme, on gère des informations, puis c'est un peu pareil. Donc, on voit plus très bien la limite. Et puis, avec le monde animal aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui fait encore la singularité de l'homme dans ce grand tableau ?
Ça, c'est la question la plus difficile.
Je vais garder pour la fin.
Je dirais que d'abord, l'homme se caractérise, l'homme et la femme bien sûr, l'être humain et la société humaine, l'humanité se caractérise essentiellement par une histoire. Et cette histoire est absolument unique. C'est une histoire, je n'entends pas simplement, je ne sais pas moi, la guerre de 100 ans, la chute de l'Empire romain les guerres puniques. J'entends une histoire qui remonte beaucoup, beaucoup plus loin, qui est celle de l'émergence, en quelque sorte, de l'humanité, de l'homme moderne. L'homme d'abord anatomiquement moderne, suivi à une certaine distance d'ailleurs de l'homme cognitivement ou mentalement moderne. C'est une histoire unique. Et cette histoire, personne ne peut en quelque sorte maintenant la reproduire ou nous la prendre. Donc les autres espèces animales dont nous sommes dans un état d'interpénétration profonde, il y a beaucoup de choses en nous que nous partageons avec les espèces animales, notre coévolution avec les chiens par exemple, qui est un sujet d'actualité en ce moment, nous montre bien que nous sommes proches de l'animal à beaucoup d'égards, nous sommes des animaux en un certain sens, il ne faut pas exagérer non plus, nous sommes un animal très particulier, mais surtout, l'essentiel, c'est que nous sommes notre histoire d'espèce, notre histoire culturelle, et les achèvements dont nous sommes si fiers, à juste titre, je pense, à côté évidemment de toutes les horribles bêtises dont nous sommes capables, eh bien, ces achèvements sont dus essentiellement à un apprentissage progressif, culturel, anthropologique, année après année, décennie, siècle, millénaire après millénaire. Et cette histoire-là nous est propre et nous n'y échapperons à aucun moment. Alors ce que j'ai dit à propos des espèces animales s'applique également à propos des machines. D'ailleurs, écoutez, soyons honnêtes, les animaux sont des machines extraordinaires, sont des organismes extraordinaires, d'une perfection extraordinaire. Alors là, nous pouvons craindre, au fond, est-ce que nous sommes tellement mieux qu'eux, etc. Mais les machines, regardez les machines, elles sont tellement loin, les pauvres, aidons-les plutôt à être un petit peu meilleurs, aidons-les à nous aider. Le problème n'est pas vraiment de savoir si nous serons un jour des machines ou si les machines vont être meilleures que nous, tout comme nous. Ça, ce sont des fantasmes absolument sans réalité.
Écoutez, merci. C'est une invitation à poursuivre cette histoire. Une histoire n'est pas vouée à avoir nécessairement une fin. Et pour la poursuivre, il faut certainement accepter cette dimension d'animal pensant que nous sommes et donc se pencher sur cette cognition. Et j'invite nos auditeurs, bien entendu, à se plonger dans votre ouvrage, dans lequel ils apprendront bien des choses sur eux-mêmes, sur notre cerveau, nos façons de penser, et puis sur les perspectives à venir qui sont dans ce fameux clair-obscur qui nous est donc cher à tous. Merci beaucoup encore de nous avoir éclairés.
Merci beaucoup. Thank you.